Bonjour pour ce numéro de La Perle à rebours réalisé un 29 février depuis le Café La Perle avec la complicité de Nasser Zouran, du régisseur général Yann Le Tailleron, de la programmatrice Christelle Bilan, de Sylvain Chantal et de Laurent Messager. Je reçois Julien Ménec, co-secrétaire Sud Santé Sociaux, éducateur spécialisé de rue, membre du collectif Travail Social en Lutte. Sylvain, selon notre nouvel usage, il convient que vous introduisiez le magazine.
Alors, je ne sais pas si le collectif Travail Social en Lutte 44, dont un représentant Julien Ménec est invité aujourd'hui, je ne sais donc pas si ce collectif reçoit les doléances des chroniqueurs radio. Mais je tenais à leur faire part de mon mécontentement. Normalement, je ne suis payé bénévolement que pour travailler 28 jours en février. C'est dans ma convention collective. Or, comme par hasard, mon exploiteur de patron, Michel S., m'envoie un message il y a quelques jours, « N'oublie pas de venir jeudi prochain pour la Perle à rebours. » Bêtement, je réponds, « Bien sûr, Michel S., que je viendrai, je ne suis pas du genre à oublier. » Et bien évidemment, je n'ai pas réalisé que je me faisais exploiter. Me voilà donc à la Perle, en ce jeudi 29 février, à travailler encore plus bénévolement que d'habitude. J'ai donc décidé, durant l'émission qui s'annonce, de procéder à une grève perlée. Je rappelle aux auditeurs, ainsi qu'à Michel S., le principe de la grève perlée. La grève perlée, ce n'est pas boire qu'un muscadet sur deux à la Perle. C'est traditionnellement un moyen de pression consistant à exercer ses fonctions tout en visant à diminuer sa productivité ou son efficacité. Elle est souvent utilisée comme prélude ou alternative à une grève. En France, le ministère du Travail appelle grève perlée le fait de travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans interruption véritable d'activité. Mais elle peut aussi, selon d'autres points de vue, confortés par la définition du mot « perlé » formulé par l'Académie française, se traduire par des arrêts de travail sporadiques et répétés, ce qui peut être parfaitement légal. La grève perlée se distingue ainsi de la grève du zèle ou d'autres formes de grève, générale, surprise, tournante, sauvage, sur le tas, solidaire, politique ou de la faim. Pour ma part, je poserai donc, comme d'habitude, quelques questions à l'invité. Je rebondirai après ses réponses, comme j'ai coutume de le faire avec l'à-propos qui me caractérise, mais je ne ferai aucune de ces blagues pour lesquelles je suis d'ordinaire payé bénévolement. Rien que chi, l'auditeur devra se contenter de celles pas toujours drôles de notre animateur vedette à qui je laisse présentement la parole.
Merci. Est-ce que vous avez envie de défendre la cause du malheureux Sylvain C?
Ah ben on défend toujours la cause de tous les salariés, hein, et on enregistre bien le nom de Michel S, patron a priori, qui a des reproches à se faire.
Pour nous présenter le collectif Travail Social en Lutte 44, vous diriez qu'il s'est constitué en 2019, et là vous complétez.
Il a été créé en 2019 au niveau national, suite à plusieurs revendications dont on n'avait jamais eu réponse au niveau du patronat dans le secteur social et médico-social, et qui s'est décliné sur l'ensemble des territoires français, principalement dans les grandes et moyennes villes. Et du coup, nous, de notre côté, on s'est constitué au niveau du 44 avec des personnes syndiquées. Le collectif est soutenu par Sud Santé Sociaux, par la CGT 44, par la CNT, un peu par la FSU qui est un peu moins présente ces derniers temps. Et du coup, le but était de réunir des personnes syndiquées et non syndiquées pour militer ensemble plutôt que de rester dans notre carcan syndical à militer entre nous.
Si je vous dis que le secteur social est en crise depuis de bien de nombreuses années, bien avant 2019, vous me répondez quoi ?
Je réponds que ça s'aggrave de pire en pire. Là, le secteur de la protection de l'enfance et le secteur médico-social, donc la question du handicap, de plus en plus, on voit que les conditions de travail se détériorent et les conditions d'accueil se détériorent de plus en plus, notamment du fait que l'ensemble des patrons se retrouvent plus dans une gestion budgétaire plus que dans une gestion de l'humain et de l'accompagnement éducatif.
Qu'est-ce qui fait qu'il a pris corps en 2019, ce collectif ?
Il a pris corps un peu plus fort, notamment parce que le personnel du paramédical et médical avait obtenu le Ségur. Alors pour expliquer aux auditeurs ce que c'est le Ségur, parce que c'est un peu compliqué, c'est une prime mensuelle, en gros c'est du salaire en plus, mais sous forme de prime, à hauteur de 183€ net, qui a été donnée pour le personnel qu'on considérait à l'époque comme indispensable, selon le discours de M. Macron pendant le Covid et juste après la crise Covid. Et du coup, nous on avait réclamé la même chose, parce que nous, au niveau des salaires, c'est extrêmement bas. On a même des collègues qui aujourd'hui, même avec ce Ségur-là, travaillent en dessous du SMIC.
C'était juste avant le premier confinement lié à... Oui. Pandémie de Covid-19, c'est comme ça qu'il faut dire, pandémie de Covid-19. J'ouvre une parenthèse. Les travailleuses et les travailleurs sociaux étaient-ils considérés comme essentiels et dans quelles conditions ont-ils pu exercer leur métier durant cette période ?
Comme d'habitude, hein, on est plutôt un secteur qui est très invisibilisé, on est relayé par très peu de médias, on est peu représenté, c'est-à-dire que par exemple, contrairement aux infirmiers, on n'a pas d'ordre qui nous permet du coup de faire un rapport de force ou de jouer un peu plus avec l'État ou avec d'autres partis politiques, etc. Du coup, là, ça a été très, 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 très compliqué pour nous pendant la crise de Covid-19, du fait que y a plein de collègues qui n'ont pas pu aller travailler, plein de services qui ont dû fermer. Et pour les collègues qui sont restés travailler, ça a été mon cas, on s'est retrouvés à 2 au lieu de 5 pour accompagner une trentaine de jeunes femmes pendant l'ensemble de la crise Covid, ce qui était une galère sans nom pour nous, mais surtout pour le public qui, du coup, en dépit du manque d'effectifs, se retrouvait à être beaucoup moins accompagné et moins bien accompagné.
Pour répondre à ma question, essentiel, pas essentiel ?
Essentiel.
J'imagine que vous allez dire essentiel.
Essentiel. Essentiel, mais avec une particularité, c'est qu'au fond, notre métier, et c'est le but principal de notre métier qu'il ne faut jamais qu'on oublie, le but de notre travail, c'est qu'on n'existe plus à terme.
Ah oui.
Oui, ça c'était bon, son ça, intervention.
C'est une grève perlée.
Oui, c'est ça.
C'est totalement utopique.
Ah, c'est totalement utopique. Mais bon, l'utopie sert à faire avancer un petit peu les choses. Au moins, ça donne un objectif.
Le fait de réunir des personnes syndiquées et des personnes non syndiquées dans un collectif ne plaide pas en faveur de la syndicalisation des personnels. Est-ce que c'est un atout ou un constat d'échec ?
C'est plutôt un atout plus qu'un constat d'échec, parce que là, on se rend compte qu'aujourd'hui, justement, ce collectif a fait naître des désirs et des envies de se syndiquer. Donc, au contraire, ça a été plutôt une réussite là-dessus. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé le collectif comme but de syndiquer les gens, mais plus de se constituer. En fait, le problème aujourd'hui, c'est nous, au niveau du secteur social et médico-social, on n'a pas un syndicat extrêmement représentatif qui se met en avant. Par exemple, là, on a vu pendant la crise agricole, toujours en cours, les syndicats, je ne parle pas de la FNSEA, mais les autres, et il y en a un autre qui ne faut pas trop parler non plus, arrivent à se fédérer et à être beaucoup plus présents dans les médias, à faire des actions fortes. Et nous, le but du collectif, c'était de justement devenir appuyer une volonté de militants non syndiqués à faire bouger les choses au niveau de notre secteur.
Mais alors, niveau cotisation, c'est pas ça.
C'est pas ça, mais ça vient. Et c'est le but. Là, on a quand même pas mal de gens. Je peux pas vous dire un chiffre exact, mais il y a beaucoup de monde qui se sont syndiqués depuis.
Et est-ce que la voix d'un collectif est aussi écoutée que celle d'un syndicat ?
Non, pas nécessairement, mais par contre, elle permet deux usages très particuliers. Le premier usage qui est vraiment très utile, c'est qu'au niveau des médias, on a des fois des entrées un peu plus facilitées du fait qu'il y a certains médias qui se disent, à tort, hein, lassés d'entendre toujours la question des syndicats, des revendications, etc. Je dis bien que c'est à tort, mais le but est de faire bouger les choses. Et le collectif, du coup, avait cet atout-là de ne pas se présenter en tant que tel comme un syndicat, mais comme un groupement de personnel. Et on le voit bien, il n'y a pas très longtemps, je vais vous prendre un exemple assez positif. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au niveau de la SNCF, je crois que c'était en décembre dernier, un collectif de travailleurs au niveau du rail, donc des personnes syndiquées et non syndiquées, ont fait pression au niveau de la SNCF pour organiser justement un mouvement de grève qui a été ensuite relayé par les syndicats. Et ça fait encore plus peur au patronat parce qu'en fait, ça sort des limitations du syndicat que le patronat aujourd'hui arrive à peu près à gérer. Donc ça les dépasse.
Donc il vaut mieux, pour être invité dans les médias, se présenter comme membre du collectif que comme co-secrétaire syndicat.
En fait, le côté pratique, c'est que c'est un peu une image un peu fantomatique, c'est-à-dire qu'on vient dire qu'on est collectif, mais en fait derrière, même s'il n'y a pas que les syndicats dedans, c'est très important de le redire, hein, il y a bien des militants non syndiqués qui veulent rester non syndiqués, et bien mine de rien, derrière, c'est les syndicats qui parlent en grande partie.
De toute façon, le journaliste ira voir qui l'invite et repérera qui l'invite, un co-secrétaire.
On en a piégé plus d'un.
Ça représente combien de personnes, le collectif ?
En fait, il n'y a pas de membres, il n'y a pas de système d'adhésion au collectif. C'est un collectif fluctuant, c'est-à-dire que des fois, dans les assemblées générales, on va être 5, et des fois, on va être 30. Des fois, on est même plus, des fois, on est 50, etc. Mais le but, c'est que ça ne soit pas constitué en nombre avec des adhésions. Donc, les gens viennent, reviennent selon leurs envies et leurs énergies à militer.
Bon, nous aussi, on a ça dans notre émission avec la chorale à géométrie variable. On dit que c'est une chorale, mais parfois, on n'a qu'un représentant.
Comme tout à l'heure.
Voilà.
Bon, donc il y a des points communs entre le collectif Travail Social en Lutte et
la chorale de Pearl Harbor.
Quelle est la part de syndiqués dans le collectif ?
Ça représente environ 50%, je dirais, dans ces eaux-là. Et puis l'autre intérêt aussi que ça présente, c'est qu'en fait, de fait, vu que du coup la CGT Sud, CNT soutiennent le collectif, il y a des membres de ces différents syndicats qui sont là. Et du coup, ça permet aussi de soigner quelque chose d'hyper important pour la lutte, mais soigner l'intersyndicale entre nous. C'est-à-dire que, vu qu'on se connaît, vu qu'on passe des moments conviviaux ensemble à militer, de fait, derrière, on arrive aux intersyndicales avec déjà un accord, une sorte d'accord un peu préétabli.
Le collectif Culture en Lutte 44, une expression en Loire-Atlantique du collectif Culture en Lutte Nationale. Au niveau des revendications, est-ce qu'il y a des spécificités départementales ?
Pas spécialement, là, c'est plutôt des revendications nationales à chaque fois. Là, au niveau du département, il y a une grosse actualité, donc si on parle au niveau de notre territoire. Alors ça concerne aussi le département de la Gironde qui a fait des actions il n'y a pas très longtemps. Mais le conseil départemental, pour faire rapide, vient de nommer qu'ils ont un manque à gagner de 62 millions d'euros Ça peut paraître énorme parce qu'on n'a jamais ça sur notre compte en banque, à part les gros bourges et les gros capitalos.
Ceux qui gagnent l'auto parfois.
Ceux qui gagnent l'auto parfois, c'est vrai. Donc les exceptions qui ne font pas la règle. Et du coup, 62 millions d'euros de manque à gagner sur un budget d'1,4 milliard. Aujourd'hui, le département gère plein de choses. Il gère la voirie, la question des collèges, la question de l'aménagement urbain, mais surtout, ils sont en gestion de l'action sociale et de la protection de l'enfance. Et une petite partie du médico-social, mais qui du coup n'est pas significative. Aujourd'hui, on a eu le retour que le budget est en vote au niveau du conseil départemental et qu'ils vont impacter près de la moitié de leur manque à gagner sur l'action sociale et médico-sociale, notamment la protection de l'enfance. Donc avec des grosses pertes en termes de services, c'est-à-dire il y a des services qui vont fermer, il y a des gens qui ne vont plus être recrutés, il y a des retraités qui ne vont plus être remplacés, et il y a des jeunes surtout, c'est surtout ça qui est important, il y a du public qui ne va plus être accompagné, et pour certains qui vont rester à la rue dans une situation très alarmante.
Et ça, l'échéance, c'est quand ça ?
L'échéance, c'est le dernier vote, ce sera le 25 mars. L'ouverture du vote était le 22 février parce que le département était en difficulté à voter son budget en amont au vu de ça. Le 25 mars, ce sera le dernier vote et on est en train de préparer une mobilisation pour ce temps-là devant le conseil départemental.
Quand tu parles de travail social, il y a plusieurs domaines. Alors, je ne sais pas si je suis exhaustif, mais il y a l'aide sociale.
C'est ça.
L'éducation spécialisée, les services à la personne, le développement local, l'insertion professionnelle. Je vais avoir une bonne note.
Ouais.
Et d'autres
Et d'autres, plein. Moi, j'ai tendance à faire un schéma simple pour se figurer ce que c'est l'action sociale et le travail social de manière générale. Vous faites une grande croix. En haut, vous mettez les personnes qui sont en situation de handicap. En bas, vous mettez les personnes qui sont en situation de précarité économique et sociale. Sur la gauche, vous mettez la question des adultes. Et sur la droite, la question des enfants. Vous mettez votre curseur où vous voulez. Il y a des services qui sont là, normalement, pour répondre aux besoins de ces personnes-là.
Toutes les revendications se retrouvent portées par le collectif dans toutes ces filières ?
Pour être très franc, le collectif du travail social en lutte, aujourd'hui, même au niveau national, représente plus particulièrement les travailleurs du secteur social et médico-social, et en partie du sanitaire. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans l'accompagnement à la personne, donc aide à domicile ou autre, qui en vrai, normalement, devraient être concernées par nos revendications et par notre militantisme, ne rejoignent que peu ce collectif du fait qu'on communique certainement très mal dans ce secteur-là, qu'on n'a pas de connaissances particulières de personnes dans ce secteur-là, dans notre propre réseau, et certainement aussi parce que ces personnes-là, en général, sont même beaucoup plus précaires au niveau économique que nous et ont moins le temps, moins l'énergie de venir militer.
Quelles sont les formations requises pour pratiquer ces métiers ?
C'est très large. Il y a plein de formations. De manière générale,
Elles ont été réformées ?
Elles ont été réformées il y a peu. Alors, trois formations ont été réformées il y a peu. La formation d'EJE, alors on a plein de sigles dans la protection de l'enfance, donc je vais les épeler. Donc c'est éducateurs jeunes enfants, c'est ceux qui travaillent avec les enfants de 0 à 7 ans. Les éducateurs spécialisés qui travaillent avec tout type de public, mais plus particulièrement dans l'accompagnement au quotidien. Et les assistantes sociales que la plupart des gens connaissent. C'est un métier que je ne vais pas présenter spécifiquement parce que les gens connaissent. Et du coup, c'est des bac plus 3 qui ne sont pas considérés comme plus 3, mais c'est 3 ans d'études après le baccalauréat. Il y a d'autres métiers comme moniteur éducateur, CESF, c'est aussi un bac plus 3. CESF, c'est conseillère d'économie sociale familiale, TISF, etc. Donc ça va du CAP. Jusqu'au bac plus 3, jusqu'au master pour les cadres ou pour ceux qui font de la recherche dans l'ingénierie sociale.
Ce que je vous propose, c'est une respiration musicale. J'ai choisi pour faire plaisir à Didier Wood, que vous retrouvez chaque mercredi à 21h sur les ondes d'Alternante FM. J'ai choisi Élise Caron, interprétant Vicissitudes.
Toutes ces vicissitudes qui nous font oublier qu'on a été un beau bébé potelé, un être réjouissant et doux. Jusqu'au fond des bas-fonds et des chambres dorées, ce qui nous a mus et nous a émus, nous a laissés malgré tout tout nus, face à cet adversaire, l'adversité, et habités par un sentiment d'inhabité. On s'est pourtant battu, on s'est même fendu de quelques manifestations. Libérez-les, libérules! Pourtant cru au vainqueur, au vaincu, à quelques revendications.
Nous voulons plus de courbatures.
On voulait se reposer sur nos lauriers. On a fini par se reposer sur nos rotules. Toutes ces vicissitudes qui nous font oublier qu'on a été un beau bébé potelé, un être réjouissant et doux. Pour l'amadou et vite amadoué, ce que l'on a volé de l'œuf au bœuf, nous a laissé malgré tout tout neuf, face à cette insolite solitude, et habité par un sentiment d'inhabitude. Les sangsues sans scrupules pourront sucer toujours. Magique est la formule, ce n'est qu'un discours, continuons le discours. Jusqu'à la houle de la foule, en juge éternel, le bon droit se défoule. À mort les mortels, on voudrait s'envoler vers le ciel, tiré par les cheveux et retenu par les bretelles. Accablés par nos propres promesses, et à force de courir en rond comme un ronron, on finira par voir nos propres fesses écoulées par le fond, lestées par la paresse. Aurons-nous droit à une énième chance face à ce retard qui a pris tant d'avance? Trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Faudrait-il donc se dépasser pour se rattraper? Comment montrer son âme à tout le monde et garder ses esprits, ou aventurer son corps à la ronde? Étoile qui hurle à la lune, la lune qui saigne en son sein.
De Pearl Harbor consacré au collectif Travail Social en Lutte
44
puisque on est en Loire-Atlantique, mais c'est un mouvement qui est national. Notre invité est
Julien Ménec,
co-secrétaire Sud Santé, socio-éducateur spécialisé de rue et membre du collectif Travail Social en Lutte. Avant de revenir sur les revendications du collectif, j'aimerais bien que vous nous témoigniez de votre travail au quotidien. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, les difficultés?
Ok, moi j'ai bossé dans pas mal d'endroits, notamment en protection de l'enfance avant, donc dans les foyers qui sont plutôt connus. Après j'ai bossé en CHRS, ça c'est pas très connu, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et je travaillais pour l'accompagnement de jeunes femmes de 16 à 25 ans, qui avaient des problématiques multiples, tant des problèmes d'errance avant, c'est-à-dire que du coup, misère économique, misère sociale, etc. Et on travaillait à les réinsérer, à trouver en tout cas des voies pour elles, pour plus tard, à partir d'un logement dans lequel elles étaient logées, donc en appartement. Et là, aujourd'hui, maintenant, je travaille en tant qu'éducateur de prévention spécialisé. Alors, c'est plutôt connu comme éducateur de rue. C'est peut-être la part des éducateurs les plus connus dans le monde en général, enfin en France en tout cas. Donc moi je travaille à la Beautière-Pinsec, qui est un quartier à l'est de Nantes. Nous, la prévention spécialisée, on est présent dans une dizaine de quartiers, en comprenant Rezé, Orvault, Saint-Nazaire. Pour faire assez simple, on est dans l'ensemble des quartiers populaires, excepté Le Breil, La Helvèque et Port-Boyer, globalement. Pour des raisons politiques, c'est un peu obscur de pourquoi on n'y est pas. Mon métier, je vais sur le quartier avec mes collègues, à l'origine 4, maintenant avec les restrictions budgétaires, nous ne sommes plus que 3. On est un peu comme des habitants singuliers, c'est-à-dire qu'on se promène, souvent, les jeunes nous disent qu'on se promène, on est beaucoup dehors, à rencontrer l'ensemble de la population, l'ensemble des habitants qui travaillent sur le quartier.
Le nom du quartier était prédestiné.
Pour le pain sec ?
Pain sec, oui.
D'ailleurs, un des quartiers les plus pauvres de France, hein, ça porte bien son nom. Alors, c'est Pain, P-I-N, pour pas insulter ceux qui y habitent. Donc voilà, donc, en tout cas, je m'y trimballe avec mes collègues, on est beaucoup dehors, on a un local aussi, on accueille les jeunes pour les accompagner sur des questions administratives, sur des projets, etc. On est en lien avec les familles, avec les enfants aussi, plus petits. On travaille plus spécifiquement avec les jeunes de 11 à 25 ans. Et ce qui est écrit sur notre projet de service, c'est pas très beau, mais du coup, ça résume un peu ce qu'on fait. C'est on travaille à accompagner les jeunes pour éviter l'exclusion sociale. Voilà. Mais de fait, quand on est dans un quartier populaire, qu'on connaît le principe des quartiers populaires, on est de fait exclu par l'État du fait qu'il n'y ait plus de services publics, les habitats sont insalubres, il n'y a pas d'accès aux métiers de proximité, il y a peu de commerce, etc.
Donc en 2017, quand Emmanuel Macron a dit « je ne veux plus personne à la rue », vous vous êtes dit « mince, je vais perdre mon travail ».
Ah, je me suis dit « super, je vais perdre mon travail, super, je vais changer ». Eh bien écoutez, ça fait x2.
Concrètement, vous aidez à remplir des tâches administratives, faites de la médiation aussi, enfin, j'aime les choses très très concrètes du métier,
très concrètes.
Qui vient vers vous, est-ce que vous allez vers les personnes, comment ça se passe sur le terrain ?
Une journée un peu type par exemple, ça c'est pas mal, j'arrive à 9h30 à peu près, je rejoins mes collègues, on discute de comment on va préparer la journée. En général, après, quand on a préparé la journée, on sait un peu en avance vers où on va aller. Le matin, on est souvent plus sur des tâches administratives ou des rendez-vous individuels avec des jeunes, ou par exemple, il y a un jeune qui vient nous voir qui a besoin d'aide pour avoir accès au permis de conduire, parce qu'il y a une galère dans sa famille, que sa mère, là, par exemple, vient de perdre son boulot, elle est maman seule et il n'y a plus de thunes au domicile, donc quelle solution on trouve ? Quelqu'un qui va se faire exclure de son logement, quelle solution on trouve ? Et on essaie de les trouver ensemble. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas exactement comment on va faire. J'ai des idées, j'ai des outils. Mais le but, c'est de savoir ensemble comment on va faire. Et donc, bien d'accompagner la personne, pas de savoir à sa place. Après, bah, je bouffe le midi, comme tout le monde, peu près. Ouais, je crois, je fais ça. Ouais.
Il y a un menu type.
Il y a un menu type bouffe rapide. Prends pas trop ton temps pour bouffer, parce qu'après, il faut enchaîner. Au maximum, une demi-heure, trois quarts d'heure de pause. C'est pas super, on devrait faire plus, mais bon, pour l'instant, on en est là. Et après l'après-midi, souvent, on va dans le quartier, on se balade, entre guillemets. On va à la rencontre des jeunes pour voir quels sont leurs besoins, voir quel est leur quotidien, etc.
Et vous êtes assez identifié ?
Ouais. J'ai parlé de mon quartier. À Beautière-Pinsec, on hérite d'une trentaine d'années de la prévention spécialisée sur le quartier. D'ailleurs, les jeunes ne nous appellent pas par le nom actuel du service, qui est l'ADPS. Ils nous appellent par l'ancien nom de l'association, qui s'appelait le JEPS, mais qui n'existe plus depuis une vingtaine d'années. C'est un héritage qu'on récupère. Et ce qui fait qu'on est plutôt bien identifié par les jeunes, plutôt bien accueilli. Alors bien sûr, on ne force pas. Les jeunes, ils sont en train de faire autre chose. Ils font leur vie. Le but, c'est pas les faire chier. C'est être là quand il y a besoin, et être là pour partager des fois des banalités, pour arriver ensuite sur ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en plus ? On a un outil très particulier qui est hyper chouette. On fait des chantiers éducatifs avec les jeunes, ou ce qu'on appelle aussi des ateliers compensés. Globalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire des jeunes qui sont plus scolarisés, qui ont besoin de thunes, parce qu'il y a une grosse galère dans la famille, parce qu'ils ont un projet de partir en vacances, parce qu'ils veulent s'acheter une voiture, un scooter, etc. On va leur proposer de venir bosser avec nous. Par exemple, on va en ce moment beaucoup à la ferme des Champs Libres, pas loin de Pornic, qui est une sorte de ferme de permaculture. Voilà. Et on allait construire un atelier vélo ensemble. Et pour ça, en fait, nous, on mobilise des finances en leur faisant un contrat de travail, en les accompagnant à la médecine du travail. Ça, ça nous permet de repérer s'il y a des problématiques de santé aussi en plus. Et après, ils reçoivent leur salaire. Surtout, ce qui est très important sur ce chantier-là, c'est pas leur faire gagner de la thune, ça c'est pour eux. Mais nous, c'est renforcer le lien avec eux pour ensuite voir s'il y a d'autres choses, d'autres soucis, etc. On participe à la création des événements de quartier, on soutient les créations d'associations, d'entreprises aussi, quand c'est des gens du quartier. Voilà, globalement, à peu près, un boulot.
Que deviennent ces jeunes ? Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir ? En fait, c'est pour savoir s'il y a un impact profond et qui amène des changements de vie.
Là, c'est la spécificité du métier, c'est qu'on a beaucoup de mal dans la culture. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça, ne pas quantifier les résultats qu'on apporte.
Mais plus haut, les subventionneurs vous demandent
des
comptes, statistiques.
Ouais.
Des...
Ouais. Ils nous demandent beaucoup de comptes. Ils essaient de voir combien de jeunes, de quel âge on voit, qui est retourné à l'école, qui n'est pas retourné à l'école, qui est retourné au boulot, sur quel type de sujet on accompagne les personnes pour voir quels sont les besoins. On nomme pas. Nous, on a un devoir d'anonymat. Donc c'est dans le cadre du secret professionnel. Les financeurs, personne, c'est à l'extérieur qui on accompagne. Personne. Donc on a du mal à quantifier. Mais pour autant, voilà, c'est un pari aussi. À la base, la prévention spécialisée, c'était un pari.
C'est légitime qu'un financeur se penche sur la pertinence des actions.
Oui.
Donc quel argument vous donnez ?
Il y a des données chiffrées. Ouais. On dit à peu près combien de chantiers on fait avec combien de jeunes, combien de personnes ont pu retourner à l'école, combien de personnes ont pu s'inscrire à l'école tout court, parce que des fois, il y a des jeunes qui n'ont jamais été à l'école.
Ah oui.
Ouais, on en a certains, ouais, des fois. Combien de jeunes ont pu retourner vers l'emploi, retourner vers une formation, des choses comme ça. On vient dire aussi quels jeunes on a accompagnés, vers quelle structure sociale. Parce que nous, notre objectif, c'est de raccompagner les jeunes vers le droit commun, qui est dans un état déplorable aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'il en reste, on les accompagne vers là.
Quand vous dites vers le droit commun ? Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Droit commun, ce que vous expliquez sur la question administrative, c'est si un jeune, par exemple, n'a pas de sécurité sociale, on l'accompagne vers la CPAM. S'il n'y a pas d'APL pour le logement, on les accompagne vers la CAF. S'il y a des recherches d'emploi, de formation, on les accompagne vers la mission locale, qui est l'équivalent du Pôle emploi, mais pour les jeunes. On va les accompagner vers les établissements départementaux des solidarités, donc c'est les assistantes sociales de secteur, pour certaines demandes spécifiques. La particularité de notre travail, c'est qu'on est en lien avec tous les professionnels qui travaillent autour de la question sociale sur le quartier. Et vu que nous, en fait, on sort, et on va se mettre en lien avec tous ces professionnels-là.
Et au niveau de vos conditions de travail ?
On va de manière générale, c'est pour l'ensemble du secteur social, médico-social et sanitaire, les salaires sont extrêmement bas. Moi aujourd'hui, pour vous donner une idée, alors ça ne va pas être parlant pour tout le monde, mais moi ça fait 12 ans que je travaille. Je suis payé aujourd'hui 1 780 € net avant impôt. Après avoir fait un bac plus 3, on pourrait dire que ça va le faire. Mais en fait, c'est un peu chaud. Quand on voit le salaire médian qui est à près de 2 100 € net, qui est un des meilleurs indicateurs pour vérifier si on est bien payé ou pas, on est quand même très très bas. On a des collègues qui entrent en dessous du SMIC, qui reçoivent du coup une prime pour atteindre le SMIC, parce que c'est une obligation légale. Mais ce qui veut dire qu'en fait, quand ils vont avancer dans la grille au niveau des salaires, au bout de 5 ans, eh ben, on leur retire cette prime parce qu'ils ont atteint le SMIC, par contre ils restent au SMIC, donc c'est un peu compliqué. L'aspect positif, parce qu'il faut en dire un, on a
Oui.
Alors d'une, on aime notre métier, ça c'est déjà important. La deuxième chose, on a pas mal de vacances, certainement toujours pas suffisamment, et on aimerait que tout le monde ait ces vacances là. On a 9 semaines de congés par an, ça nous permet de nous reposer un peu et reprendre nos esprits, parce qu'on est souvent face à des situations assez extrêmes au niveau social, au quotidien, et du coup on a besoin des fois de souffler, voilà.
Votre engagement dans le collectif, vous le faites quand ? Un petit peu tout le temps ? Vous avez des plages un peu dédiées à ça ?
Tout le temps, voilà. J'ai mon fil signal, mon fil WhatsApp, mes mails activés tout le temps. On se voit une fois par mois, minima, avec les collègues, enfin avec les camarades, pendant 3-4 heures, si ce n'est plus. On organise les autres temps. Typiquement, là, aujourd'hui, bah, je suis sur du temps perso. Voilà. Mes heures syndicales me servent pour le syndicat. Ça, c'était une condition du syndicat. Elles ne servent pas pour le collectif, elles servent pour le syndicat.
Ah oui, d'accord.
Vous auriez dû vous présenter comme co-secrétaire de votre syndicat.
Ouais, je suis co-secrétaire.
Ouais. Ah, comme ça aurait été sur vos heures syndicales.
Ça aurait été sur mes heures syndicales. Ouais. Alors non, c'est la particularité moi, de mon boulot. Bon, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais c'est galère mes heures syndicales. Parce que je suis sur une structure très spéciale qui s'appelle... C'est un truc un peu obscur qui s'appelle un groupement d'intérêt public. C'est pas connu du tout. C'est un truc qui mélange le privé et le public. C'est un bordel son nom. Et après, sur la question de nos conditions de travail, en effet, on est très mal rémunéré. Nous, on a la particularité au niveau de la prévention spécialisée de pas avoir d'horaire. C'est-à-dire, j'ai pas le planning. Donc, je peux travailler le week-end, les jours fériés, le soir, jusqu'à tard, des fois. Je sais à quelle heure je commence, je sais pas vraiment à quelle heure je finis. Je me donne un peu une heure limite, mais des fois, on est dépassé par ça.
La notion d'heure supplémentaire, vous ne connaissez pas ?
Non. Les heures récupérées, oui. Mais les heures supplémentaires rémunérées, non.
Vous avez un budget de fonctionnement ?
Ouais, qui est très bas. Nous, pour fonctionner, par exemple, la Bottière Pinsec, pour vous donner une idée, c'est à peu près 5 000 habitants, la Bottière. Et nous, on a 1 400 € de budget annuel de fonctionnement, ce qui comprend l'ensemble des sorties.
1 400 €
ouais,
par an ?
Ouais, par an. Je ne mets pas les salaires dedans, bien sûr, hein, parce que sinon...
Donc ça fait 100 € par mois.
Ouais, voilà, dans ces eaux-là.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Là, par exemple, on va faire une sortie ce soir avec des jeunes qu'on voulait voir depuis longtemps et qu'on essaie d'accrocher parce qu'on voit qu'il y a des sacrées problématiques sur le territoire. Ça a été un peu un bras de fer, par exemple, pour négocier le pouvoir faire cette sortie-là, parce qu'on n'a vraiment plus de budget.
Avant d'afficher les revendications, on peut dire que globalement, c'est une critique du système néolibéral. C'est comme ça qu'on peut introduire ces revendications, qui interrogent le sens de son travail, sa mission, qui interrogent le mode de financement, les moyens attribués, les sources de financement, qui interrogent les priorités qui sont accordées.
Globalement, oui. En fait, c'est la particularité de ce secteur-là, et comme le paramédical et le médical, c'est qu'à l'origine, on n'est pas du tout inscrit dans la logique capitaliste, ni néolibérale. Là, le secteur est en train de se transformer. Au sens où on a beaucoup de collègues qui arrivent en intérim, il y a beaucoup de primes. Là, ils mettent en place de plus en plus le patronat des primes au mérite. Alors, au mérite, dans le secteur du social, moi, je me demande comment ils les calculent. En gros, c'est quand tu gueules moins, t'as le droit à plus. On est souvent... Alors, j'ai toujours du mal avec l'expression, je crois que c'est 4e roue du carrosse, 3e roue du carrosse.
5e, non ?
5e roue du carrosse, ouais, parce qu'il y en a déjà 4.
1, 2, 3, 4.
Un carrosse de luxe, il peut y en avoir 6.
Ou la 3e patte du canard.
Ouais, 3e, on va dire un mélange des deux. La 3e patte du canard, du carrosse. Bref, on est un peu la béquille de la société qui fonctionne, du coup qui mal fonctionne. Et on se retrouve des fois à accompagner des jeunes qui sont du coup exclus de fait, mais pas de leur fait, du fait que la société ne s'adapte pas du tout à eux et ne leur permette pas d'opportunités de vie. Enfin, voilà.
Les revendications sont pour maintenir l'acquis ou pour éviter que ça se dégrade ?
Les deux. Maintenir l'acquis, éviter que ça se dégrade et demander plus.
Voilà, les trois du coup.
Le plus, ce serait quoi ?
Le plus, ce serait le salaire, certainement. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collègues qui, au 10 du mois, nous disent qu'ils n'ont plus rien, c'est fini. On a un collègue l'autre jour qui nous a dit « j'ai eu de la chance de trouver un logement avec mon salaire ». Parce que c'était presque impossible. Donc l'idée, c'est nous, on va demander une augmentation salariale substantielle, hein, donc pour au moins atteindre à l'entrée le salaire médian actuel. Donc dans l'idéal, on demanderait au moins 2000 euros net. En brut, je sais pas, ça c'est les patrons qui se débrouillent. Et après, plus de congés pour d'autres collègues. Nous, on en a 9, mais il y en a plein de collègues qui sont à 5 semaines dans d'autres secteurs, notamment dans le médico-social, et qui du coup sont épuisés. Une revalorisation donc salariale des congés de manière générale, une revalorisation des moyens d'accompagnement, pour qu'on ne se retrouve plus à accompagner les jeunes dans la misère. C'est-à-dire qu'on n'a rien pour les accompagner, on n'a pas plus que ce qu'eux, ils ont des fois.
Et au niveau du sens de votre travail, parfois vous vous interrogez en disant ouais. « Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je fais ça ?»
Beaucoup, tous les jours.
Pourquoi je fais ça ? Ça, vous devez le savoir. Mais pourquoi je fais ça avec si peu de moyens ? C'est surtout ça la question. Non ?
C'est ça, et des fois avec des injonctions contradictoires.
Comment ça, il me corrige mes
questions ? Ça me va, elle était plus précise. En fait, je me pose la question toujours du sens de mon travail. En effet, je suis convaincu de ce que je fais, mais l'ensemble de mes collègues sont plutôt convaincus de ce qu'ils font et de pourquoi ils le font. Avec la logique qu'on nous a appris en partie à l'école, hein, même s'il ne faut pas copier-coller ce qu'on nous a appris à l'école. Mais en tout cas, on avait des convictions plutôt... Beaucoup de collègues s'inscrivent dans la question de la lutte des classes, donc du coup, on reste dans ces conceptions-là. Pour autant, aujourd'hui, les logiques de gestion budgétaire, les logiques managériales ne rejoignent pas du tout ça, et on se retrouve souvent sous des formes d'injonctions contradictoires, hein, c'est-à-dire, on va dire, fais plus, mais avec vraiment beaucoup moins. Hein. Ou lui, ça serait bien qu'on l'accueille, mais ce soir, il va falloir que tu le mettes dehors parce qu'il n'y a pas de logement. Des choses comme ça. Et du coup, on se retrouve face aux limites de l'institution, face aux limites de budget. Ouais, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je bossais en accueil deux jours. Je trouve pas de logement avec le 115, donc ce qui est l'aide d'urgence pour trouver un logement quand on n'a rien. Des fois, je disais aux familles, je suis désolé, là, j'ai fait le tour pendant 3-4 heures, j'ai rien. Et des familles avec des enfants de 3-4 mois qu'on met dehors. Donc c'est là où on se pose souvent la question de putain, pourquoi je fais ça, quoi.
Il y a un côté optimisation.
Ouais. En fait, là où nous, on se piège nous-mêmes dans notre propre culture, c'est que dans le secteur social et médico-social, à l'origine, ça vient un peu des bonnes sœurs, hein, du milieu catho, tout ça. On est resté un peu dans cette culture-là, un peu sacrificielle. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire stop, là, on s'arrête, c'est plus. Et c'est pas on fait avec moi. On a beaucoup de collègues qui se retrouvent à accepter ces conditions-là, à dire ouais, c'est comme ça, on va faire avec ça. Que là, on peut plus, là, on arrive à la limite. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, à Nantes, on sait qu'à peu près, qu'il y a environ une centaine de familles à la rue avec enfants. Le nombre de personnes à la rue, ça explose. En Loire-Atlantique, il y a à peu près 500 enfants qui sont en attente d'une place pour être protégés des dangers qu'il y a en ce moment dans leur famille. Plus de 1000 enfants qui sont en attente d'un accompagnement, de manière générale, dans le médico-social. Enfin, la question de l'handicap, là, j'ai même plus les chiffres, mais c'est catastrophique. Et du coup, on se retrouve à accueillir des fois les jeunes dans une misère tellement ancrée qu'on sait plus comment faire.
Vous n'avez pas encore connu une situation paradoxale où un de vos collègues viendrait vous solliciter parce qu'il serait en précarité lui-même ?
Ça nous est arrivé de remplir les papiers.
C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure.
Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois des enfants de travailleurs sociaux, enfin d'accueillir des enfants de travailleurs sociaux. Ça arrive, on est tous exposés à ça. Et dans le milieu perso, parce qu'ils ne viennent pas me solliciter en tant que travailleur social. Mais on a des collègues qui sont suivis par des assistantes sociales de secteur, qui sont vraiment en difficulté, etc., qui sollicitent des aides d'urgence et tout. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement, par exemple, d'accompagner une collègue à trouver un logement. Parce qu'en fait, elle n'arrivait plus. Elle venait de se séparer de son compagnon et impossible, avec son salaire, de trouver quelque chose. On a joué ce qu'on a pu faire. Aujourd'hui, elle a trouvé une coloc, mais voilà.
C'est le moment de céder notre place à la chorale à géométrie variable, la fameuse CGV de la Perle, aujourd'hui composée de Laurent Messager.
Lui-même.
Celle-ci est chargée d'illustrer en chantant le thème de l'émission, ce qui, pour une fois, n'a pas été facile, Laurent.
Non, ça n'a pas été facile et en fin de compte, en t'écoutant, ça me rassure. Vraiment, ça me rassure parce que la lutte, la révolution, c'est aussi le bousculer, le tout courant et en même temps bousculer à travers les idées. Et en fin de compte, la révolution, c'est pas forcément toujours une révolution violente, c'est souvent une révolution qui apporte quelque chose et là, je trouve que dans ton discours, il y a de l'idée.
Merci.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre. Qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes. et qui trame en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je pense que j'ai fait moins de 2 minutes.
L'auteur,
c'est beau.
L'auteur, Georges Moustaki, sans la nommer, je pense que c'est le bon titre.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Merci Julien Ménec pour
merci.
Votre participation à cette émission. Merci à notre choriste. Merci à Nasser qui a assuré la technique de l'émission. À Sylvain, qui n'a pas trop parlé parce qu'il est en grève perdue. Il ne dira pas son dernier mot.